Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du format Le Jour Où. Je reçois Marina, infirmière de formation qui s'est confiée avec beaucoup de force et de courage sur un événement heureux, son mariage, intervenu à l'aube d'une situation des plus tragiques. Bonne écoute! Attention, cet épisode aborde des sujets délicats tels que la fin de vie, le cancer et le décès. Bonjour Marina!
Bonjour Marielle!
Comment vas-tu?
Eh ben ça va très bien aujourd'hui, et toi?
Ben ça va très bien, je te remercie. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
Je suis ravie d'être là également.
Alors, on va aborder des sujets qui sont un peu délicats, un peu sensibles, mais tu es aussi là aujourd'hui pour nous raconter, je trouve, une très belle histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu de contexte autour de toute cette histoire, nous raconter qui tu es, ce que tu fais dans la vie?
Alors moi, écoute, je m'appelle Marina, j'ai 29 ans, j'habite dans le sud des Alpes, en Haute-Provence. Je suis actuellement en arrêt maladie depuis bientôt un an. L'histoire va, je pense, expliquer un peu tout ça. J'ai été pendant 2 ans à la tête d'une petite épicerie bio, indépendante. Et avant ça, j'étais infirmière. Enfin, je suis toujours infirmière de formation. J'ai exercé principalement dans des services de médecine générale et de nuit en EHPAD.
Est-ce que tu peux nous raconter du coup, alors c'est pas une question que je pose très souvent, mais sentimentalement on va dire, la personne que tu as rencontrée, comment votre histoire s'est installée, etc.
Alors moi j'ai rencontré Philippe, donc, qui est le papa de ma fille, qui est devenu mon mari il y a bientôt 3 ans. De manière, je pense, assez courante de nos jours, sur un jeu en ligne.
Ok.
Voilà, pendant que je faisais une tentative de première année de médecine, je me suis retrouvée un peu toute seule, en fait, dans une ville où je connaissais personne. À la base, je suis originaire de Provence et je me suis retrouvée en Lorraine. Du coup, je passais beaucoup de temps comme ça sur un jeu entre deux coups. Et voilà, on s'est rencontrés de manière totalement fortuite. Au départ, on était vraiment comme chien et chat, toujours à chercher, on pouvait pas se voir. C'était une catastrophe. Tu sais, vraiment à chercher comment embêter l'autre, quoi. C'était... Et puis petit à petit ça a basculé vers une amitié de plus en plus intense. C'était vraiment ça s'est fait autour du moment où j'ai eu mon concours d'entrée à l'IFSI.
Ok.
Voilà, parce que j'ai fait une première année de PACES et ensuite je suis rentrée à l'IFSI. Et voilà, on est devenus très très proches et on avait plus une relation de confident, en fait. Il se passait, j'avais une super journée à l'IFSI avec des cours géniaux qui me passionnaient. C'était la première personne à qui j'avais envie d'en parler. Ou au contraire, je passais une journée difficile en stage. Je lui envoyais des petits messages, il me remontait le moral. Enfin, vraiment, voilà, il y avait ce côté... Après, pour la petite anecdote, on avait 16 ans de différence. Lui, il était séparé avec 2 enfants.
Ok.
Voilà, donc 36 ans, à la tête de son entreprise... artisan au fin fond de la campagne, dans le sud-ouest de la France, donc totalement à l'opposé de là où j'étais. Et moi, 19 ans, étudiante infirmière, enfin vraiment deux mondes qui semblaient complètement opposés, mais on a... c'était évident. Vraiment, le genre d'histoire...
Le conte de fées.
C'est ça, exactement. Le conte de fées, aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue de vivre ce que certaines personnes vont chercher toute la vie et ne pas forcément trouver. Et moi, j'ai eu la chance de le vivre pendant 7 ans.
C'est la magie des rencontres sur Internet aussi. Hein,
c'est complètement dingue.
Rentrer en contact avec des gens. Tu vois, peut-être que la barrière de l'âge dans la vie réelle vous aurait peut-être freiné de prime abord.
Ah, sûrement,
et puis finalement, vous avez fait connaissance comme ça. Et puis, ça a amené à cette belle histoire.
Exactement. Et donc, moi, j'ai dû terminer mon IFSI en Lorraine parce que j'ai pas eu la possibilité de muter
plus près de chez lui. Transférer ton dossier, ok.
C'est ça. J'ai essayé, mais il y avait que des tout petits IFSI qui étaient déjà bookés, donc ça a pas été possible. Et en dernière année, pendant ce qui aurait dû être mon dernier stage, j'étais redescendue pour un week-end et on était en train de se préparer pour sortir. Et là, je repère, il était torse nu, je repère dans son dos au niveau de l'omoplate, un grain de beauté qui avait vraiment une sale tronche.
Okay.
Concrètement, une forme complètement...
anarchique,
ça partait dans tous les sens, c'était vraiment, il n'y avait pas de bord bien défini. Mm-hmm. Il était rouge avec une espèce de voile blanc par-dessus. Maintenant que j'ai beaucoup plus d'infos sur le sujet, c'était très caractéristique d'un mélanome.
D'accord.
Donc, moi, forcément, ça m'a tout de suite inquiétée. Je l'ai forcé manu militari à prendre rendez-vous chez le dermato parce que c'était un phobique des médecins. Il était vraiment... voilà, si c'était pas moi qui l'y envoyais, il n'y allait pas. Et ça n'a pas loupé. Il a eu son rendez-vous un jour où, je me souviens, j'étais chez mon père. Donc, j'étais repartie en Lorraine et il m'appelle en sortant. Je sens tout de suite à sa voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, écoute, la dermato a regardé en un quart de seconde. Pour elle, c'est un mélanome, c'est cancéreux. J'ai rendez-vous à l'hôpital pour une exérèse large dans 10 jours.
D'accord. Exérèse large, pardon, ça veut dire on retire le grain de beauté et on va sur des bords et une profondeur assez importante pour pouvoir retirer
ils
tout le
grain de beauté. Ils ne font pas juste ce qui peut être fait en cabinet de dermato avec une petite anesthésie locale. Okay. Là, c'était quand même un peu plus costaud. Et ils lui ont enlevé un morceau, je crois, de pas loin de 5 cm de diamètre.
Ah oui, d'accord. Lui, ce grain de beauté, alors déjà, au vu de l'emplacement, dans le dos, il ne l'avait pas vu.
Il pouvait absolument pas le voir.
Ouais, oui, d'accord.
C'était, même en se contorsionnant ou autre, c'est vraiment, tu sais, dans la zone, dans l'angle mort du dos, quoi.
Et c'est ça. Oui, à moins de se scruter dans le miroir tous les jours, ce qui
n'est
pas quelque chose que
qu'on fait. Oui, c'est ça. Et puis, même selon la luminosité, selon... moi, c'est vraiment parce que j'étais derrière, pratiquement à hauteur de mes yeux. Enfin,
ok.
Je l'ai eu en pleine face, quoi.
Ok. Donc, tout de suite, la machine médicale se met en route, voilà,
l'intervention chirurgicale. La machine médicale se met en route. Pas aussi vite que j'aurais espéré parce que fin fond de la campagne. Donc déjà pour qu'il ait son rendez-vous chez le dermato, ça a pris plusieurs semaines. Il y a eu quelque chose comme je crois une bonne dizaine de jours entre le moment où la dermato a appelé elle l'hôpital, elle a appelé directement, hein. Ça n'a pas été vous prenez rendez-vous, c'est elle pendant le rendez-vous qui a appelé pour demander une prise en charge urgente, mais en campagne urgente c'est facilement 10 jours. Donc, j'étais avec lui au moment de l'exérèse. J'ai pu rester, d'arguant un peu que j'étais étudiante infirmière. J'avais fait un stage dans l'hôpital en question, donc j'avais un peu mes entrées déjà. Donc, j'ai pu rester avec lui. J'ai vu exactement ce qui se faisait. Je voulais faire attention parce qu'il avait un tatouage à ce niveau-là. Il n'avait pas envie que ce soit trop abîmé. Et donc, on reçoit les résultats de la napate quelques semaines plus tard. Effectivement, mélanome, il n'y a pas de doute possible.
Okay.
Donc, et apparemment, le morceau, comment on appelle ça ?
La pièce, oui, qui a été...
oui, voilà, la pièce opératoire qui avait été retirée n'était pas suffisante en taille. Donc, un mois après la première exérèse, il a été repris au bloc, mais cette fois-ci sur le gros CHU du coin.
D'accord.
Enfin, le gros CHU régional, où là, ils lui ont enlevé un morceau de la taille d'un magret de canard.
Ah, oh là là.
Bon, du coup, ça permet de deviner dans quelle région on était, pour qu'ils me donnent ce genre de détails de taille.
C'est eux qui t'ont dit ça, d'accord.
Ben, en même temps, c'est assez représentatif du morceau, avec la peau, le muscle, en allant jusqu'à l'os
de
l'omoplate, et en faisant en même temps un ganglion sentinelle.
Okay.
Comme on fait pour les cancers du sein, les choses comme ça, donc au niveau axillaire.
Exactement.
On passe en rendez-vous ensuite avec l'oncodermato qui, elle, nous parle de rémission complète.
Tout de suite.
Tout de suite. Pour elle, voilà, vu la taille de la pièce qui a été enlevée cette fois-ci et le fait que ça a été pris tôt, que le ganglion sentinelle soit négatif, qu'au niveau du PET scan, il n'y ait rien, pour elle, c'est bon.
D'accord.
À surveiller, mais a priori, il n'y a pas de raison que ça aille pas.
Plutôt optimiste sur la suite des choses.
Exactement. Voilà, nous, on lui parle de nos projets. Je terminais mes études et voilà, on commençait à se dire que du fait de la différence d'âge et autres, on envisageait quand même d'avoir un enfant dans un futur relativement proche. Enfin, on avait tous ces projets de jeune couple. On était en train de rénover une maison. C'était vraiment quelque chose d'assez intense. Et très rassurante, vraiment, oui, allez-y, vivez votre vie normalement, il n'y a pas de souci, quoi.
Elle parle d'un contrôle, éventuellement, quelques mois, quelques années plus tard
Pas plus que ça.
Okay.
Pas, normalement, quoi.
Oui.
Recommander d'aller faire un suivi, en précisant que, voilà, comme il y en a déjà eu un, peut-être personne plus à risque que la population globale, mais en gros, faites-vous suivre et tout devrait aller bien.
Ok.
C'était en 2014, ma fille est née en 2017, et à la fin du mois d'août 2018, donc quelques semaines après son premier anniversaire, on était en train de faire du rangement dans le garage tous les deux, et il a soulevé quelque chose de lourd, je crois que c'était une bouteille de gaz, quelque chose comme ça. Et là, il se pétrifie, le visage m'est figé de douleur, Et il lève le bras, il me regarde, et je vois une énorme masse au niveau axillaire. Donc, grosse panique. Il avait rendez-vous, heureusement, chez le dermato pour un contrôle le lendemain. Ça est tombé, mais vraiment, je sais pas comment. Il va donc chez la dermato le lendemain. Elle, tout de suite, elle appelle le centre d'imagerie à côté pour qu'il passe un scanner en urgence. Et il me répond plus au téléphone pendant 2-3 heures. À mon avis, il s'était réfugié pour savoir comment en parler ou juste faire le point avec lui-même, quoi. Il m'appelle et il me dit c'est une adénopathie, donc un ganglion qui est infesté de tumeurs, enfin de cellules cancéreuses. Il y a des métastases au niveau hépatique et pulmonaire. On est passé comme ça de 3 semaines avant, on était super heureux, on fêtait l'anniversaire de notre fille, à un mélanome métastatique. Donc là, se met en route à nouveau des traitements, enfin à nouveau, non, pour la première fois du coup, des rendez-vous très réguliers au CHU avec l'oncodermato. Et là, elle nous apprend que vu le type de cancer, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout réceptif aux chimiothérapies, que c'est juste pas une option. Que vu les différentes zones de métastase, une radiothérapie n'est pas envisageable dans l'état actuel des choses, à part peut-être éventuellement dans un but de confort au niveau axillaire. Pour faire réduire la grosse adénopathie qui faisait la taille d'une balle de tennis. Hein. C'était vraiment quelque chose d'énorme qu'il avait au niveau de l'aisselle. Et que, en gros, la seule solution, c'est une thérapie ciblée.
Ok.
Donc, des comprimés qui vont cibler, avec un principe actif qui va cibler spécifiquement un gène qui entraîne le développement, en fait, de ces cellules cancéreuses. Donc, il démarre cette thérapie. Au début, tout se passe bien. Je crois que les métastases réduisent de facilement 50% sur le premier mois. Enfin, quelque chose de fantastique. On était très confiants. Et puis, il commençait à avoir des effets secondaires. Lui, qui était un gros bec sucré, il a développé un diabète insulino-dépendant. Donc ça, déjà, au niveau du moral. Puis voilà, le fait d'avoir un suivi glycémique et autres plusieurs fois par jour, c'est...
C'est très lourd.
Ouais. C'est là, je pense, qu'il a vraiment commencé à se sentir malade. Avec toute la baisse d'énergie, alors que c'était une force de la nature, quoi. Vraiment, après sa grosse opération, il a fini de poser le placo à l'étage, quoi. C'était... Donc, le traitement qu'il a commencé, du coup, au mois de septembre et entre janvier et février, ça a totalement cessé de fonctionner. Au niveau des scanners, ça se remettait à flamber. Enfin, c'était vraiment évident que ça ne fonctionnait plus. Il y a eu une tentative d'une autre thérapie ciblée qui a produit encore plus d'effets secondaires. Il était épuisé en permanence. Enfin, vraiment, je pense, l'image qu'on a du patient qui se bat contre un cancer. Sans le côté chimio avec perte des cheveux et autres, mais il a perdu beaucoup de poids, il avait plus d'énergie, il avait le teint presque vert de gris. Enfin, vraiment, ça a été des mois très compliqués. On a déménagé à ce moment-là, on a quitté le sud-ouest pour arriver dans le sud des Alpes, pour se rapprocher de ma famille, concrètement, pour au cas où il se passe quelque chose. Et en même temps, on était toujours dans cet espoir de guérison, parce que les médecins nous laissaient beaucoup d'espoir, en fait. Et donc, on avait ce projet de reprise d'épicerie ensemble. Donc, ça s'est mis petit à petit en place avec le compromis de vente. Et finalement, début juin, il s'est réveillé un matin avec une douleur abdominale d'une violence, mais inouïe. Il est parti aux urgences, à l'hôpital local. Il a été transféré sur un plus gros centre hospitalier et pris en charge au bloc opératoire dans la journée pour une péritonite. Oh, en fait, la péritonite était causée par des métastases au niveau intestinal qui avaient fait éclater la paroi intestinale.
Oh là là.
Donc, je l'ai rejoint à ce moment-là. Il était en soins intensifs à l'hôpital. J'ai expliqué à l'équipe que j'étais infirmière, qu'ils pouvaient me parler, me montrer des documents, que me donner 2-3 infos sur l'état du scanner, par exemple. J'aimais autant voir le compte-rendu et me faire ma propre opinion.
Complètement. Ouais.
Et là, voilà, quand on voit que... Alors, c'était un scanner thoraco-abdominopelvien. Il n'y avait pas le crâne. Mais quand on voit qu'au niveau pulmonaire, enfin qu'au niveau thoracique, il y a des adénopathies partout, qu'il y a un lâcher de ballon pulmonaire, je pense que c'est le terme qui fait paniquer absolument tous les soignants. Enfin, quand on voit ça, moi j'étais en L1 quand j'ai su que le lâcher de ballon pulmonaire, globalement, c'était pas un pronostic terrible. Qu'au niveau abdominal, pareil, il y en a partout. Je crois qu'il n'y avait pas un organe qui n'était pas cité avec à côté. Tout était touché, c'était dramatique.
Et on en parlait en off, mais du coup, quand on est étudiante infirmière, infirmière, mais on a cette envie, ce besoin d'aller chercher l'information à la source, et comme tout tu dis, fait. De parler aux professionnels de santé en leur disant allez-y, confiez-vous, je vais comprendre.
D'avoir un discours surtout d'égal à égal.
C'est ça.
Parce que certes, on est parfois la personne la plus proche du patient, mais on a aussi nos connaissances. On a aussi notre expérience, plus ou moins longue, forcément, quand j'étais étudiante, j'en avais moins. Mais voilà, on peut avoir déjà un certain recul sur tout ça, avoir une petite idée de ce qui peut se passer. Ne serait-ce que quand mon mari avait des soins infirmiers à domicile, parce que l'adénopathie a fini par éclater. Donc, prise en charge au bloc, et il s'est retrouvé avec une plaie ouverte sous l'aisselle dans laquelle on pouvait facilement rentrer un point pour aller faire les soins. J'ai eu des discussions, mais pendant des heures, avec les infirmières à domicile qui s'occupaient de lui sur le type de pansement à choisir. On avait vraiment une discussion de professionnel à professionnel.
Est-ce que tu deviens aussi un petit peu la référence dans le cercle familial, la personne vers laquelle on se tourne pour demander des nouvelles?
Ah oui, totalement.
C'est un rôle qui est difficile aussi, ça, à porter.
Surtout quand toutes les nouvelles qu'on donne sont mauvaises. Il y a ça aussi, il y a le fait que, là, je vais devoir annoncer à sa mère, je vais devoir annoncer à ses enfants que ça va clairement pas dans le bon sens. Oui, on a l'impression d'être le messager, maudit qui n'apporte que des mauvaises nouvelles, quoi. Donc, c'est une situation sur laquelle moi je me suis beaucoup blindée, et c'est pour ça que c'est ressorti plus tard, je pense.
À partir de ce moment-là, celui qui va devenir ton futur mari,
pour le moment on était paxés.
Voilà, c'est ça. Il va commencer à avoir des séjours du coup à l'hôpital de plus en plus longs, répétés.
Il est rentré à l'hôpital le 11 juin, il n'en est pas ressorti.
Ok.
Il a commencé donc à l'hôpital départemental de là où on vit. Ensuite, il est descendu sur le gros CHU à rayonnance régionale, où il était suivi déjà par rapport au traitement, à la thérapie ciblée. Et en fait, pendant le transfert, le temps qu'il fasse le trajet, qui durait à peu près 2 heures et demie, il a perdu l'usage de ses jambes du fait de métastases vertébrales. Donc, quand il est arrivé dans le service de dermato où il devait être hospitalisé, ils l'ont transféré tout de suite en neurochirurgie. Et je pense que c'est là que quelque part, le fait d'être infirmière m'a un peu induite en erreur, parce qu'ils l'ont opéré.
D'accord.
Et pour moi, on ne part pas sur une opération de ce style-là, avec tout ce que ça implique par la suite, s'il n'y a pas d'espoir.
Donc ça te redonne de l'espoir.
Ça m'a donné un espoir dingue. C'était, on en parlait il y a 2 minutes, c'est les premières nouvelles un peu positives que j'ai données à notre entourage, en fait. C'était là, clairement, s'ils lui font ce type d'opération...
Avec tous les risques que ça encourt derrière,
c'est
qu'il y a une raison.
Et puis avec tout ce que ça implique en termes de rééducation, qu'on a tout de suite parlé de rééducation aussi.
D'accord, ok.
Donc il a retrouvé petit à petit une mobilité au niveau des jambes, alors pas la marche, mais une mobilité et tout ce que ça peut impliquer sur le bas du corps, en termes de continence et autres. Et donc, il a été transféré une grosse semaine après l'opération sur un centre de rééducation au fin fond des Alpes. Je crois que j'étais à 2 heures de route sur des toutes petites routes de montagne. Enfin, vraiment, le truc, j'ai pas compris. Pour lui rendre visite, c'était un petit peu compliqué. Il est arrivé là-bas le lundi. On était au tout début du mois de juillet. Il arrive là-bas le lundi, très fatigué, mais en même temps, il sortait de 2 opérations. Il y avait de quoi. Le mercredi, je vois le médecin rééducateur qui me dit « Bah écoutez, on a fait le point avec votre mari, il n'y a pas de souci. Lundi, il attaque un programme intensif de rééducation. Dans 3 semaines, il est de retour chez vous. »
Oh là là, d'accord.
Mais vraiment, moi j'étais...
Abasourdie, quoi, de la nouvelle.
Ah oui, c'était vraiment, mais waouh, il va s'en sortir, vraiment. J'ai eu raison d'avoir ce feeling à l'hôpital quand j'ai pensé que le fait de l'opérer, c'était super bon signe. Donc ça, c'était le mercredi. Et le vendredi, j'arrive relativement tard dans l'après-midi et le médecin du service était dans le couloir. Il me dit, écoutez, madame, on transfère votre compagnon en soins palliatifs.
Oh là là.
On est passé en 48 heures de...
L'espoir...
Dans 3 semaines, il est chez vous. Bon, il faudrait faire des adaptations, peut-être mettre un lit médicalisé dans le salon, des choses comme ça. Mais ça, concrètement, ça ne me faisait pas peur du tout. Quoi. C'était... Bon, là, quand même, on n'est pas sur le même pronostic, quoi. Mais en me disant que... Non, mais on l'envoie là-bas parce qu'il y a des places et... globalement, en termes d'effectifs et autres, c'est plus pratique. Mais ils vont le requinquer. Là, je pense que j'étais un petit peu dans un état de dissonance cognitive ou...
Complètement,
tu sais quoi, ouais. Parce qu'on n'envoie pas quelqu'un en soins palliatifs pour le requinquer.
Oui, on te dit tout et son contraire en l'espace de 48 heures. C'est hyper déstabilisant.
C'est exactement ça. Là, je pense que j'avais complètement déconnecté les 3 neurones fonctionnels qui me restaient. Et je marchais à l'affect, clairement. Mmh. Il y avait plus que ça qui fonctionnait, parce que à côté, j'avais ma fille qui avait pas tout à fait 2 ans, mes beaux-enfants qui étaient jeunes ados, enfin voilà, c'était...
Et la vie, elle continue à côté. Hein.
Et puis toute la famille qui était un peu pendue à mes lèvres pour savoir ce qui se passait, quoi, parce qu'il y a une énorme chaîne de solidarité familiale qui s'est mise en place à ce moment-là. J'avais toujours quelqu'un à la maison pour du soutien, pour...
Ah, super.
D'ailleurs, si j'ai des proches qui m'écoutent, je vous remercierai jamais assez.
T'étais bien entourée.
Ouais. Ouais, vraiment.
Tant mieux.
Et donc, le transfert s'est fait le vendredi en toute fin de journée. Et j'étais sur le trajet retour pour rentrer chez moi, pour aller lui chercher des affaires et avoir les enfants aussi. Et là, l'infirmier du service de soins palliatifs m'appelle et me dit « Écoutez, il faut que vous veniez maintenant. J'ai peur que votre mari passe pas la nuit. »
Oh là là.
Ouais. J'étais contente de pas conduire ce jour-là sur l'autoroute. C'était vraiment... Mais voilà, le coup de fil qui a tout déclenché. Sa fille était encore dans le sud-ouest. Je l'ai appelée en lui disant... J'ai parlé à l'ex-femme de mon mari, du coup, la maman de sa fille, en lui disant, écoute, là, il faut que tu lui prennes un billet de train maintenant, il faut qu'elle arrive au plus vite. Je pense que si elle veut une chance de revoir son papa, c'est imminent. Donc, on reprend la route de l'hôpital. Je passe la nuit là-bas avec mon mari. Sur les moments où il dormait vraiment, j'allais discuter avec les soignants. Et vraiment, voilà, les équipes de soins palliatifs, moi, c'est des équipes pour lesquelles j'ai une admiration intense depuis le tout début de ma formation, qui ont une bienveillance, une humanitude absolument incroyable. Et clairement, ils m'ont portée pendant les jours qui ont suivi. C'est une nuit où, malgré la fatigue et autres, l'état de santé de mon mari, on a quand même pu énormément parler. La question du mariage in extremis s'était déjà posée des années auparavant, au tout début de notre histoire.
D'accord.
Parce que je faisais un stage à l'époque, c'était mon 2e stage, j'étais en fin de première année, et j'étais dans un service en CHU, en Lorraine, de pneumologie avec une grosse orientation oncologie, et du coup beaucoup de patients en fin de vie, et en l'occurrence là c'est un patient qui m'a énormément marquée, qui était là pour donc un cancer du poumon avec des métastases assez étendues, notamment au niveau cérébral. Et en l'espace de 3-4 jours avec sa compagne, et pour des histoires à la fois très intimes et très sentimentales, mais aussi bêtement pratico-pratiques pour tout ce qui est administratif pour la suite, parce qu'ils avaient un enfant en commun. Entre l'équipe du service, le patient et son épouse, s'est organisée justement cette cérémonie à l'hôpital. Donc on a décoré la chambre comme on pouvait, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant, et voilà,
ça
me souviens en sortant de ma journée de stage lui en avoir tout de suite parlé, parce que Ben voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup secouée, mais dans un sens très positif, en fait, parce que je trouve que c'est un moyen un peu magique de clôturer une histoire qui se termine de toute manière de façon tragique.
Complètement.
C'est, oui, quelque part, c'est un peu la victoire de la vie sur la mort, quoi. Donc,
Ouais. Bon, puis ça fait partie, je pense, de ces... de ces grands événements qu'on voit un jour, alors en stage, en service, peu importe, mais qu'on n'oublie jamais, quoi.
C'est ça. Ah, mais la tête de ce patient, je pense qu'elle est gravée dans ma mémoire, mais ça fait partie des derniers visages que je verrai, je pense, sur mes derniers moments. Et voilà, c'est quelque chose dont on avait parlé, et on en avait déjà parlé, enfin reparlé au début de son hospitalisation, au début de sa maladie. Et pour nous, c'était quelque chose d'évident, en fait. Autant, voilà, on n'était pas du tout dans le délire du beau mariage, les fleurs, les machins, les trucs. C'était vraiment pas quelque chose qui nous branchait. Nous, on s'était toujours dit, si un jour on se marie, ça sera un feu de camp avec des potes, de la musique et des bonnes bières.
C'est très bien comme ça.
Voilà. Voilà, on était vraiment parti sur quelque chose en petit comité. Alors là, pour le coup, on l'a eu, il n'y a pas de souci. Hein, c'était atypique et en petit comité. Donc, quelque part, ça correspondait à ce qui nous avait toujours parlé. Et
ça s'organise du coup en... Alors vous avez cette discussion cette nuit-là, et voilà. En combien de temps ça s'organise
en 3 heures.
En 3 heures.
En 3 heures, le samedi matin.
Super.
Je demande au médecin du service de me faire le document médical nécessaire à amener à la mairie pour avoir donc la possibilité d'un mariage à l'hôpital et non pas en mairie ou dans un lieu dédié.
Pour qu'un officier d'état civil se déplace à l'hôpital. Voilà, ok.
Donc, bien sûr, le médecin me fait le papier en l'espace d'un quart de seconde. C'est des trucs que dans ces services-là, ils ont déjà pré-imprimé, je pense, et plus qu'à remplir. Et en même temps, c'est très bien. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement beau, au final.
Ouais, tant mieux que ça soit facilité comme ça.
C'est ça.
Ouais.
Je pars en courant à la mairie de la commune où était l'hôpital. J'arrive peut-être 10 minutes avant la fermeture du bureau. Je tombe sur quelqu'un d'extrêmement ému, de très touché, qui me dit bah, écoutez, je vais faire tout ce que je peux. Tout le monde est parti, mais je vais passer des coups de fil. Et on fait ça ce soir. Qu'est-ce qui vous arrange entre telle heure et telle heure Voilà, j'appelle ma sœur en même temps pour lui demander à la fois d'être ma témoin, de me ramener les papiers, d'essayer de trouver 2-3 trucs de déco, enfin vraiment...
Oui. Alors question complètement pratico-pratique, oui. Mais du coup, il faut des témoins.
Il faut des témoins. Après, ça peut être le personnel du service.
Ah bah oui,
s'il
n'y
a pas de famille à proximité.
Bien sûr.
Mais là, voilà, on a eu la chance d'avoir des proches présents, donc...
Super.
Donc c'était quand même plus personnel, je pense. Voilà, ma sœur qui avait tout juste 19 ans, qui était en train de gérer ma fille, qui... Je pense qu'elle a pris, elle a pris 15 ans de maturité dans la tête en une journée. Si elle a fait clochette, ma sœur, de toute façon.
Si tu écoutes ce podcast, voilà.
Exactement, Flo. Et voilà, en sortant de la mairie, je suis passée devant un fleuriste. Je me suis dit, allez, c'est un passionné de plantes. Hein. Il a toujours eu une main verte, mais alors surréaliste. S'il n'y a pas au moins un bouquet de fleurs fraîches dans la pièce, ce sera pas
ça
nous,
pas.
Quoi. Donc, voilà, je rentre chez le fleuriste, je commence à sélectionner 2-3 trucs, mais enfin, j'étais dans un état, j'étais une serpillière, quoi. Concrètement, je pleurais toutes les 30 secondes, le fleuriste me demande ce qui va pas, parce que je pense que des mariés dans cet état... Alors, autant des mariés très émotifs qui pleurent, mais avec le sourire aux lèvres, ils peuvent en voir beaucoup, mais dans mon état, un petit peu moins... Et au final, voilà, il a repéré un peu ce que je voulais et il m'a fait un bouquet, mais sublime,
oh.
Énorme, avec plein de fleurs blanches, des orchidées, des lysianthus, enfin, quelque chose de magnifique. Et au moment de partir, il me l'a offert.
Oh,
voilà, donc ça a été une journée, vraiment, je me suis sentie portée par des gens bienveillants et je pense que c'est ce qui m'a permis de ne pas m'écrouler à chaque mètre sur lequel j'avançais.
Non, mais t'as trouvé de l'humanité dans plein d'acteurs de cette journée, finalement.
Exactement.
Oh, génial.
Et donc, je suis arrivée à l'hôpital. J'ai donné les infos sur l'horaire et tout à l'équipe. Ils m'ont dit, bah écoutez, occupez-vous de vous. Prenez le temps de vous habiller, de vous maquiller, si vous le voulez. Enfin, de faire ce que vous voulez. On s'occupe, si vous voulez que ce soit nous qui le fassions, d'habiller votre mari, parce que voilà, ça faisait un mois qu'il était à l'hôpital, il était un petit peu hirsute, forcément les coiffeurs à l'hôpital, en plein mois de juillet, il n'y en a pas des tonnes. Voilà, donc ils ont fait une petite tonte de barbe, essayé d'arranger un petit peu les cheveux, ils ont mis une belle chemise, vraiment, vraiment très bienveillant. Moi, pendant ce temps, je me suis habillée en 3 minutes dans la salle de bain de l'hôpital avec, avec les pieds mouillés, parce que ben, salle de bain d'hôpital, quoi.
C'est ça, où la douche est commune avec les toilettes le reste de la salle de bain.
Exactement. Et pendant que je me préparais, en fait, l'équipe a aménagé la chambre. Et ils ont enlevé tout ce qui faisait vraiment très médical, mis des draps blancs un peu jolis sur tout ce qui était à couvrir. Je ne sais pas comment ils se sont organisés, mais ils ont sorti des bouteilles de cidre, de quoi faire un petit apéro après. Enfin, vraiment quelque chose de... exactement ce qu'on avait fait, en fait, quand j'étais en stage avec l'équipe qui m'encadrait. Et il y avait à la fois ce côté où ça me ramenait 5 ans auparavant dans cette situation où tout allait bien. Enfin, même plus de 5 ans, ça devait faire pas loin de 7 ans. Et me dire, bon, ben, un peu comme un... Comment dire ? Comme une boucle qui se ferme, quoi.
C'est ça, ouais. Un cycle ou quelque chose.
C'est ça.
Ouais,
ouais. Et donc, quelques dizaines de minutes après, l'officier d'état civil est arrivé. Il m'a prise à part en me demandant si j'avais des demandes particulières par rapport à la cérémonie, une chanson à passer, des choses comme ça. Et puis on a fait un point sur les textes qui sont lus lors d'un mariage, en me demandant s'il y avait certaines parties que je voulais zapper, clairement.
Okay.
Notamment, et j'ai choisi de le faire, celle qui parle de l'éducation commune des enfants.
Exact, oui, oui.
Parce qu'il y a toute cette partie sur... je ne sais plus exactement comment c'est tourné, mais...
Oui, oui.
Où il est précisé que les deux époux sont responsables communément de l'éducation des enfants, et oui. Je savais très bien que dans mon cas, ce serait pas possible.
Mais c'est un beau geste aussi de venir vers toi avant et de tout dire on va faire le point sur ce qu'on dit. Je trouve ça fort en symbole.
C'était, enfin, je sais pas si c'est une question d'habitude ou juste que j'ai eu cette chance énorme de tomber sur des gens, sur des gens
bienveillants,
extrêmement accompagnés. Mais vraiment, voilà, j'ai ce souvenir de quelque chose qui aurait pu être très lourd, très dramatique, mais où au final, je me suis sentie vraiment dans un cocon.
Mmh. Ou complètement impersonnel, où on aurait pu faire
ça,
un
mais
truc
pas du tout.
Purement administratif. Ou, ouais, ouais.
Pas du tout, parce qu'au final, on était entourés du coup de nos 3 enfants. Enfin, c'est 2 aînés d'un premier mariage, notre fille. Il y avait plusieurs membres de ma famille, c'était... Voilà, on a quand même eu quelque chose qui, entre guillemets, ressemblait à un mariage, quoi.
Ouais, ouais.
C'était pas une version légale d'un dernier sacrement ou je ne sais quoi. Ouais. C'était vraiment un mariage.
Et on a fait en sorte de faire oublier, voilà, cette
c'est
atmosphère.
On
n'était
plus
pesante.
Vraiment à l'hôpital. Les lumières étaient tamisées. En plus, c'était la fin de journée. Il y avait ouais, vraiment un cocon à la fois lumineux et doux, et enfin quelque chose de... Et ça se retranscrit parfaitement sur les photos que je regarde aujourd'hui. Il y a vraiment, oui, ce côté lumineux. Et son oui, ça a été le dernier mot vraiment conscient et qui venait... Mais... C'était vraiment quelque chose qui venait du fond de lui-même, quoi. C'était juste... Voilà, on a réussi, quoi, quelque part. Ça va se terminer très rapidement, mais on a réussi. C'était le samedi soir, je suis restée dormir à côté de lui, sur le fauteuil de l'hôpital.
Ok.
Parce que le lit accompagnant était trop loin pour moi, et 1m50, c'était déjà beaucoup trop. Je suis restée la nuit, je suis restée le lendemain, on a eu un petit peu de visite, voilà, des proches, les enfants et autres. Le dimanche, donc ça c'était le mariage, c'était le samedi soir. Le dimanche, il était plus vraiment présent. On a commencé à mettre en place une sédation parce qu'il avait des espèces d'accès de panique où il pouvait avoir des mouvements très désordonnés et presque violents. Avec, je pense que tu vois ce que ça donne chez des personnes en fin de vie, mais voilà, les yeux qui avaient un peu tendance à se révulser, ou on le sentait pas bien. Et c'est quelque chose pour laquelle les soins palliatifs est quand même le service de référence. Donc une sédation douce qui permet que la personne soit apaisée, n'est pas mal. Et ça, c'était... c'est quand même quelque chose qui change tout, quoi, en termes de perception pour l'entourage. Alors je peux pas me mettre à la place de la personne qui est en train d'être soignée, mais en tout cas pour l'entourage, de voir que son... concrètement que l'amour de sa vie est apaisé. C'est énorme. Donc le dimanche, ça a été une journée, une journée comme ça où on... il alternait des moments de quasi-conscience et des moments de sommeil profond. Et le lundi matin, donc le jour où on aurait dû techniquement reprendre ensemble l'épicerie, dans le week-end, j'avais appelé les gérants qui nous cédaient le commerce pour partir à la retraite. Je pense que si dans le dictionnaire il y a une photo à côté de la définition de bienveillance, c'est la leur. Ils m'ont dit mais vraiment, prends tout le temps qu'il te faut, nous le magasin on s'en occupe, il n'y a pas de souci. Ce que tu vis c'est impensable, donc ne t'inquiète pas pour ça, quoi. On prendra le temps après de faire ce qu'il faut, mais là vraiment concentre-toi sur ton couple et sur ta famille. Et donc le lundi matin, il a commencé vers 9h30 à avoir des gaspes. Ses mouvements respiratoires non contrôlés et très intenses, qui donnent l'impression que la personne manque d'air en fait, et essaie, comme quelqu'un qui a passé trop de temps sous l'eau, essaie d'attraper le plus d'air possible. Et donc là, je me suis allongée à côté de lui et je ne l'ai pas quitté pendant plus d'une heure. Et il est parti dans mes bras. Donc, je suis restée encore facilement une demi-heure à lui parler. J'ai passé une chanson qui, pour moi, était assez symbolique. En gros, les paroles, c'est une chanson en anglais, mais les paroles, entre autres, il y a « Je trouverai mon chemin parce que tu m'as montré, la voie » ou quelque chose d'assez doux. C'était une chanson qui me parlait.
Et qui résumait bien toutes ces années
c'est
ensemble.
Ça, c'était une manière de clôturer cette belle histoire, parce que voilà, c'est ce qui m'a porté sur les 3 années d'IFSI, et je pense que tu sais à quel point ça peut être lourd émotionnellement, sur mes débuts de carrière, sur vraiment toutes ces périodes qui, dans la vie d'une soignante, sont lourdes, et intenses et chargées, tout ce que tu veux. Et donc, à peu près une demi-heure après qu'il ait rendu son dernier souffle, j'ai sonné pour que l'équipe vienne. Et on a procédé ensemble à sa toilette mortuaire. Moi, c'était un soin depuis le tout début de mes études que je voyais comme une conclusion à une relation de soins. Ça a toujours été très important pour moi de pratiquer ce soin-là quand je perdais un patient. Encore plus après, quand j'ai été en EHPAD, parce que forcément c'est des relations qui sont beaucoup plus longues généralement, donc c'était pour moi une manière de dire au revoir, et il était hors de question que je le fasse pas pour lui. Donc voilà, ça s'est fait accompagné par l'infirmière et l'aide-soignante qui étaient présentes pour notre mariage. Donc on a, voilà, il y avait vraiment encore une fois cette
continuité,
impression de boucle et,
mais c'est vrai que c'est un soin, pour l'avoir fait plusieurs fois, qu'on ne considère pas comme une toilette, c'est un rituel, et puis qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on ait une relation avec le patient plus ou moins longue, on y installe aussi tout un vécu, toute une impulsion,
c'est ça. Et
c'est
sur,
beau que tu aies réussi à participer
sur
à ça.
Sur le moment et dans les heures qui ont suivi, j'avais cette intime conviction que c'était le dernier soin que je pratiquais.
D'accord.
J'avais ce projet extrêmement précis et déjà en route de reconversion vers le commerce de chocolat plutôt que le deal de Xanax. Ça m'allait pas trop mal.
Écoute, c'est pas trop mal.
Donc
c'était comme à nouveau un cycle qui se termine. Quoi.
Exactement.
Je trouve admirable de voir. Comment dans ta tête c'était déjà tout si bien articulé dans un moment
Je pense que
si difficile.
Part, si on peut parler davantage dans ce type de maladie, c'est qu'on a le temps de s'y préparer. On a le temps d'en parler. Enfin, c'est pas un accident de la route où il est parti le matin en me disant allez, ce soir, on se fait le dernier épisode de telle série. Ça faisait pratiquement un an qu'on savait qu'il y avait de très très fortes probabilités que ça se passe comme ça. Donc on avait discuté d'énormément de choses, que ça soit vraiment des points clés de notre vie ou de ma vie future après son départ, ou des choses totalement bateaux. Enfin, on est ultra strict, par exemple, sur la manière dont notre fille se fera percer les oreilles si elle le souhaite. Ça paraît complètement bateau, mais voilà, c'est une discussion qu'on a eue, et ouais, c'est carré, c'est plié, ça se fera comme ça, quoi.
Ouais, très bien. Très, très bien. Donc. On parlait un petit peu en off de prévention, et je pense que tu es bien placée aujourd'hui pour nous en parler un petit peu plus. Voilà, si tu as un message à faire passer autour des mélanomes, des cancers de la peau, tout le monde t'écoute.
Le cancer de la peau, il faut savoir que c'est une véritable saleté. Comme tous les cancers, mais là on est sur quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui ne réagit pas du tout aux chimiothérapies. Donc ça limite déjà beaucoup les options de traitement, et sur un cancer, généralement, plus il y a d'options de traitement, plus il y a d'espoir. Un mélanome qui est pris tôt, pour lequel il va y avoir une exérèse de fait et pas de métastase et rien, à 5 ans, on est sur une survie qui est supérieure à 90%. Dans le monde des cancers, c'est énorme. Par rapport même au cancer du sein et autres, on est sur un cancer de très bon pronostic. Un mélanome qui est pris au stade métastatique, on est à moins de 15% de survie à 5 ans. 5 ans, ça va très vite. C'est vraiment un cancer qui tue, qui ne laisse pas des masses d'espoir. Donc le meilleur moyen de s'en protéger, c'est de se surveiller. Que ça soit tout seul via des miroirs, à deux, avec son partenaire, avec un ami, avec un collègue de travail dans les vestiaires quand vous vous changez pour vous mettre en blouse. Et puis d'aller chez le dermato régulièrement pour faire checker tout ça. Parce que voilà, pris à temps, 90% de survie à 5 ans.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ou prendre des photos, ou voilà, en tout cas, suivre l'évolution d'un grain de beauté qu'on trouve un peu étrange, ne pas reporter le rendez-vous en se disant « bon, ça peut attendre l'année prochaine ou... ».
Ça peut pas attendre l'année prochaine. S'il y a effectivement quelque chose de suspect, si ça se trouve l'année prochaine, ce sera trop tard. Dépistage dermato, en fonction de ce que vous dit votre médecin, bien sûr, mais ce qui est recommandé, c'est tous les ans. Donc,
c'est vrai.
Ne loupez pas le rendez-vous. Se mettre à poil devant un médecin, c'est jamais super confortable, mais bon, on le fait aussi devant nos esthéticiennes et autres. Donc là, on est quand même sur un objectif qui est un peu plus important.
C'est vrai,
donc,
c'est vrai.
Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos conjoints, vos enfants, toutes les personnes qui vous aiment et qui peuvent énormément souffrir de ce qui se passe.
Ben merci beaucoup, Marina.
Merci à toi, Marielle.
Merci à toi de t'être livrée, de t'être confiée. Et je mesure la difficulté que ça peut être de raconter une histoire comme ça, mais je me sens très chanceuse et j'espère que les personnes qui ont écouté aussi... Je me sens très chanceuse d'avoir eu l'opportunité d'écouter ton histoire, votre histoire, et c'est un superbe témoignage et je suis ravie de t'avoir eu à mon micro.
Mais je suis très contente d'avoir pu témoigner, c'est assez thérapeutique pour moi aussi, je pense, d'en parler et d'avoir l'opportunité de faire passer un message. Je pense que ma psy sera fière de moi.
Il faut lui envoyer le lien de l'épisode.
Ce sera fait.
Merci beaucoup, Marina.
Merci, Marielle, très belle journée.
Merci à toi, à bientôt.
À bientôt.
Merci mille fois à Marina pour cet épisode à cœur ouvert. Si vous pensez que votre histoire a sa place ici, je vous invite à me contacter par mail, mon adresse est en description de cet épisode, ou encore via Instagram, par message privé ou encore par message vocal. À très bientôt pour un prochain épisode.